10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Comme des millions de Français, vous savez sûrement comment se termine traditionnellement chaque album d'Astérix. Par un banquet où le bard d'Assurance Torix dont personne ne veut entendre la voix est bâillonné et attaché à un arbre. Ainsi est l'Europe aujourd'hui qui chante sa souveraineté et sa force, mais qui se retrouve bâillonné et ligoté à la fois par les Chinois qui détruisent nos industries et les Américains qui pillent nos données avec les GAFA. Vous direz donc pourquoi l'Europe n'a pu empêcher les pneus chinois de concurrencer ceux que l'on fabrique en Europe. En France, Bridgestone, trop content de profiter de nos faiblesses, va quitter Béthune. Près de 800 familles restent sur le carreau. Avec le vaccin qui arrive, c'est la potion magique contre le Covid-19 qui semble être prête. Mais aurons-nous la force de nous unir en Europe à ce sujet? La solidarité européenne, c'est le slogan officiel, mais ça reste une vérité partielle. Le plan de relance européen, certes, est crucial pour sauver nos économies. Pour le reste, on attend de voir comment l'Union européenne va se positionner face à une Turquie conquérante, capable elle aussi de bâillonner le concert européen. Clément Beaune, vous êtes un des rescapés de la Macronie des premiers jours. Vous êtes passé de l'Élysée au gouvernement, où la devise semble être « tous pour un et chacun pour soi ». Pour ce grand rendez-vous, je salue Cécile Cornudet des Échos et Damien Fleurot de CNews, mais on écoute tout d'abord Olivier Véran.
Ce serait une excellente nouvelle si un vaccin voyait le jour rapidement. S'agissant du laboratoire, par exemple, Pfizer, qui a fait une annonce sur les résultats préliminaires de son étude dite en population générale, attention, ce n'est pas terminé. Évidemment que nous nous préparons pour débuter le plus tôt possible une campagne vaccinale en remplissant deux conditions, que le vaccin soit efficace et que le vaccin soit sûr.
Clément Beaune, le vaccin arrive donc, l'Europe semble se préparer de manière désordonnée. L'Allemagne par exemple a déjà une stratégie logistique, des centres de stockage, des centres de vaccination, des équipes mobiles pour distribuer ce vaccin aux populations. Et nous, en France?
Alors puisque vous évoquiez cette question européenne, je voudrais quand même dire un mot, puisque c'est un vrai sujet de souveraineté aussi, d'être capable de protéger nos populations face à une pandémie mondiale. Le vaccin, je viens dans une seconde sur les stratégies nationales, il est aujourd'hui négocié par l'Union européenne. Je crois qu'il faut que chacun le sache parce que nous avons monté cela à l'initiative de la France et de l'Allemagne en quelques semaines. Nous avons aujourd'hui 7 contrats avec tous les grands laboratoires internationaux, pas seulement européens, qui recherchent les différentes solutions vaccinales. Nous avons des contrats financés par l'Union européenne, négociés par l'Union européenne pour faire en sorte que, à chaque fois, ce soit entre 200 et 400 millions de doses, c'est-à-dire presque l'équivalent de la population européenne, qui puisse être entièrement protégée. C'est très important parce que, imaginez, si nous avions demain le vaccin en Allemagne et pas en France, ou l'inverse, le nationalisme sanitaire en Europe, ce serait un désastre. Donc, c'est très important. On parle parfois d'Europe de la santé, il faut être concret, ça passe d'abord par le vaccin.
Mais et ça donc, n'empêche pas les États de négocier directement eux aussi,
alors,
en plus,
pour l'instant, d'autres doses.
C'est ça le risque.
Pour l'instant, c'est un risque, mais pour l'instant, non. Et nous sommes en contact, vous évoquiez Olivier Véran, avec Olivier Véran presque chaque jour avec nos homologues allemands, pour s'assurer que nous restons dans un cadre européen. Pour l'instant, c'est bien le cas. Je prends l'exemple du vaccin qui semble aujourd'hui, soyons prudents, le plus avancé, celui de Pfizer et BioNTech. BioNTech est d'ailleurs une entreprise allemande, mais donc une entreprise européenne, qui a été soutenue dans ses recherches d'ailleurs par l'Union européenne. Sans doute, nous ne serions pas aussi avancés sans les financements européens. Et nous avons un contrat, l'Union européenne a un contrat de 200 à 300 millions de doses, donc c'est considérable, c'est une large partie de la population européenne, pour ce vaccin. Comment ça va se passer concrètement? Deux choses. D'abord, chacun aura le vaccin en proportion de sa population. Donc il y aura une règle claire que la France défend. L'Europe a
L'Allemagne
un contrat.
L'Allemagne n'a pas encore dit oui à ça.
L'Allemagne a dit oui pour l'instant à cela et nous le sécurisons pour les contrats à venir. Mais je suis très optimiste, nous y arriverons. Le président de la République nous a demandé de faire cette négociation avec l'Allemagne et lui-même en aura l'occasion d'en parler avec la
Mais
chancelière.
Pourquoi on voudrait comprendre, reprendre la question d'Amien Fleurot,
oui, tout à fait.
Pourquoi c'est très concret déjà en Allemagne, des centres
non.
de stockage,
non,
des équipes mobiles qui se préparent?
Je connais le syndrome d'Astérix, mais il ne faut pas avoir une forme de vision faible de nous-mêmes. Nous sommes en train de discuter.
Réaliste.
Non, je ne crois pas. Je vais vous expliquer. Nous sommes en train de discuter avec nos partenaires européens, à commencer par l'Allemagne, pour que d'ici la fin du mois de novembre, nous ayons défini les grands axes d'une stratégie de vaccin. Elle sera commune. C'est aussi la volonté du président de la République. Nous sommes en train d'en discuter, Olivier Véran en tête, avec les Allemands, pour que l'on définisse les mêmes priorités. Qui sera vacciné en premier? Parce qu'il faut un ordre. probablement les soignants ou les personnes âgées ou vulnérables seront prioritaires. Il faut organiser en effet les choses dans les centres de vaccination, la logistique, c'est une opération qui sera...
Le stockage, comment
le stockage, le transport.
À moins 80 degrés,
et bien nous sommes
on a
en train
des possibilités.
Nous sommes en train d'évaluer tout cela, il faut, pour le dire un peu trivialement, des réfrigérateurs très spéciaux. Aujourd'hui, aucun pays européen, pour être très clair, n'a tout son plan défini. Donc ne disons pas l'Allemagne a fait, la France n'a pas fait, ça n'est pas exact. Nous sommes en train d'essayer de le définir ensemble. D'ailleurs, probablement, avec un financement européen, nous achèterons un certain nombre d'équipements, frigorifiques et autres, ensemble. Donc je crois que là, on a une occasion, c'est pas gagné, mais ne partons pas battus, loin de là. Nous avons une belle occasion de faire une action européenne efficace qui protège les Français et les Européens.
Vous parliez d'investissement en recherche et développement. L'agence BARDA américaine, elle a déjà dépensé 14 milliards pour la recherche sur les vaccins et les médicaments. Comment fait l'Europe pour se hisser à ce niveau ?
Alors pour l'instant, si on fait la somme des recherches nationales, on ne doit pas être très loin d'un chiffre de plusieurs milliards d'euros. Il y a un plan européen pour ce vaccin et pour l'avenir, de créer justement un budget de la santé et une agence européenne de la santé sur le modèle
mais
de la BARDA américaine.
Encore.
C'est pas le cas, mais ça a été acté. La Commission européenne l'a présenté cette semaine. Nous soutenons activement cette initiative.
Quand est-ce qu'elle verra le jour ?
Elle verra le jour, j'espère, dès l'année prochaine. Mais sans attendre, parce que c'est sympathique de créer des agences et des machins pour paraphraser le général de Gaulle. Mais le but, c'est d'être efficace. Sur le vaccin, on n'a pas attendu d'avoir une agence. On a des contrats européens et un financement européen qui dépasse déjà 2 milliards d'euros. Et cette semaine même, le Parlement européen, en négociant avec notre soutien le budget européen, a triplé le budget européen de la santé qui passera à plus de 5 milliards d'euros pour les années à venir. Donc, ce n'est pas encore parfait, mais on a pour la première fois, et seulement en quelques mois, une Europe de la santé très concrète qui, pour le vaccin, voit le jour.
Daniel Fleurot.
Oui, donc l'Europe, on vous entend, est à la manœuvre pour elle, mais aussi pour les pays pauvres, en tous les cas, en apparence. L'Europe et la France ont mis au pot hein, presque plusieurs milliards d'euros, mais il en manque encore pour financer justement des campagnes de vaccination éventuellement dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Où est-ce qu'on trouve cet argent ?
Alors d'abord, on a effectivement, et l'Europe en premier lieu, dont la France, financé différentes initiatives depuis le mois d'avril. Plusieurs milliards d'euros d'ailleurs, je crois un peu plus de 10, sont déjà rassemblés pour que la vaccination soit accessible aux pays du Sud, aux pays en développement, aux pays les plus pauvres. Je dis un mot là-dessus, c'est pas seulement, même si c'est déjà important, de la solidarité. C'est essentiel, mais c'est plus que cela. C'est notre intérêt sanitaire aussi, parce que la pandémie ne sera vaincue et on n'aura plus de différentes vagues comme cela si partout dans le monde, nous avons des efforts sanitaires et demain le vaccin de même ambition. Donc je crois que c'est de la solidarité et c'est aussi notre intérêt. Et donc l'Union européenne est prête à mettre davantage de financement. Il ne faut pas qu'on soit les seuls. Et donc j'espère que l'administration américaine, en revenant dans l'OMS, en revenant dans différentes actions internationales, comme celle sur le vaccin, pourra financer davantage aussi. C'est un appel que nous avons lancé encore cette semaine.
Est-ce que le vaccin va permettre aux laboratoires de s'enrichir encore plus ?
Non, alors nous négocions, et je prends un exemple parce que c'est un point essentiel. Les doses de Pfizer et de BioNTech que cette semaine on a annoncées, encore une fois, soyons prudents, mais c'est une belle avancée, nous les paierons très vraisemblablement à un prix inférieur à celui qu'a négocié l'agence américaine. Donc l'Union l'a aussi fait la force, parce que quand vous négociez d'un coup 200, 300 ou 400 millions de doses, comme l'Union européenne le fait pour chaque contrat, vous avez un prix de revient inférieur.
C'est un statut de bien public mondial pour
Alors oui, c'est ce que il faut être très concret là aussi, pour ceux qui nous écoutent. Bien public mondial, ça veut dire quoi ? Ça veut dire exactement ce que vous évoquiez à l'instant. Solidarité internationale, il faut que ça soit accessible à tous. Le financement européen permet de réduire le coût du vaccin chez nous, mais dans...
Et pourquoi ne pas dire à prix coûtant ?
C'est ce qu'on est en train de négocier au cas par cas. Bon, je suis prudent parce que les contrats ne sont pas tous finalisés, mais l'objectif, c'est de faire baisser les prix le plus possible. Il est clair, il faut être là aussi précis et honnête, quand c'est une start-up, par exemple, une entreprise comme BioNTech, soutenue par l'Union européenne, mais qui trouve une solution, elle n'a pas les mêmes investissements qui n'ont pas été amortis sur des dizaines d'années comme un groupe comme Pfizer ou comme d'autres grands laboratoires internationaux. Donc je crois qu'il faut être pragmatique, sous contrôle public. Je suis pour que le Parlement national et européen, puissent avoir un accès quand ils seront prêts à ces contrats pour que tout soit transparent, qu'il n'y ait pas de fantasme ou qu'il n'y ait pas de problème. Et nous avons dit, pour revenir sur le bien public mondial, que nous étions prêts à réserver une partie de nos achats de vaccins en Europe, aux pays en développement.
Alors, en attendant le vaccin, on confine. Jean Castex le dit lui-même, hein, le chef du gouvernement, vivre avec le virus sur le temps long, il faut s'y préparer. Ça veut dire un semi-confinement jusqu'à l'été, très clairement, très concrètement.
Écoutez, très clairement, ça n'est pas décidé et on ne peut pas le savoir. Mais moi, j'aime pas trop les mots derrière lesquels il peut y avoir de l'ambiguïté. Chacun met des choses différentes.
Clarifions.
Aujourd'hui, on est en situation de confinement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, sauf travail, école, déplacement essentiel, on reste chez soi. Avec une attestation, on connaît le système. Le Premier ministre a été clair jeudi, il le fait à chaque fois qu'on a des informations pour juger et pour décider, encore au moins 15 jours, il faut garder ce confinement. On espère, mais on ne peut même pas le décider encore aujourd'hui, qu'après tout début décembre, après le 1er décembre, on pourra alléger, par exemple pour les commerces, un certain nombre de mesures. Le Premier ministre a été clair aussi et honnête sur le fait que l'attestation, et donc des restrictions de circulation, et donc le fait de rester chez soi autant que nécessaire, ça se poursuivrait au-delà du 1er décembre. Notre but à court terme, c'est de faire en sorte qu'il y ait un allègement pour Noël, pour les fêtes, pour que les familles puissent se retrouver. Le ministre de la Santé l'a dit, ce ne sera pas comme d'habitude.
Il y aura une jauge limitée.
Je ne sais pas vous dire aujourd'hui, parce que je crois que ce serait imprudent. Mais notre but, c'est aussi pour ça qu'on prend des mesures difficiles aujourd'hui et qu'on les a fait tôt, qu'on les a prises tôt, c'est qu'on puisse avoir un peu plus de respiration en famille pour les fêtes. Je ne peux pas vous dire comment, combien exactement, mais c'est notre objectif. Quant à vous dire d'ici l'été où l'on en sera, ce serait là aussi malhonnête de le dire, mais notre but est évidemment de ne pas vivre sous cloche. Ce n'est pas une décision que le gouvernement prend avec légèreté ou avec amusement, comme certains voudraient le faire croire, et nous allégerons dès que nous le pourrons. J'espère, dès le début de l'année, que ce sera possible.
On se retrouve en quelques instants avec Clément Beaune pour parler de la suite de ce confinement.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Clément Beaune, donc secrétaire d'État aux Affaires européennes. L'ancien ministre Arnaud Montebourg était l'invité de la matinale d'Europe 1. Constat implacable pour lui sur l'incapacité de l'Europe. On écoute, on regarde.
Ce n'est pas le signe de l'impuissance, c'est le signe que l'État n'a pas pris les moyens pour organiser la protection de nos intérêts industriels. Je rappelle d'ailleurs que les Américains qui ont mis des taxes très importantes, ce n'était pas M. Trump, c'était déjà M. Obama. Les Chinois ont porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce et les Américains ont gagné.
Arnaud Montebourg, là, parlait de l'usine Bridgestone qui a confirmé cette semaine qu'elle allait fermer. Souvent, vous dites la souveraineté européenne n'est pas abstraite. Là, en l'occurrence, elle n'a rien pu.
Alors, j'y viens, je voudrais quand même réagir. C'est toujours facile, j'ai l'impression que M. Montebourg, il n'est pas le seul, se délecte d'une certaine façon de ce qui sont les défaillances de notre système économique.
Et l'Europe a parfois...
Il a eu raison avant tout le monde.
Attendez, j'y viens.
D'en parler.
Non, il a parfois eu raison dans le diagnostic, mais ce qui est intéressant, c'est pas d'aller sur un plateau pour vous dire l'Europe fait pas assez, l'Europe est le couillon de la mondialisation, etc. Ça a été vrai parfois. C'est vrai que l'Europe s'est complu dans un rôle de naïveté, d'ouverture, en disant finalement tout ça va s'arranger, les Chinois vont devenir comme nous, la protection sociale va augmenter, puis etc., etc. Monsieur Montebourg, quand il était ministre de l'Industrie, il n'a jamais demandé la réforme des règles anti-dumping européennes. Il n'a jamais fait l'effort d'aller à Bruxelles pour essayer de porter ce combat. Donc, il a raison qu'on doit être plus dur dans notre lutte contre le dumping, qui n'est pas le seul mal que vit l'Europe sur le plan industriel et économique, mais qui est un mal réel. C'est Emmanuel Macron qui a été ministre de l'Industrie, qui a réformé nos règles anti-dumping et qui a fait en sorte d'ailleurs...
Là, il y a une impuissance européenne.
Et là, il y a eu un retard européen, et un retard et en plus des mesures trop faibles sur beaucoup de produits, dont les pneumatiques, c'est vrai. Je voudrais dire par ailleurs que c'est au niveau européen qu'on est capable de mener ce combat. Ça, je crois d'abord.
Donc c'est le
clair.
Problème et la solution.
L'anti-dumping, on ne le fera pas au niveau français. On ne va pas empêcher les Chinois ou d'autres d'ailleurs de vendre de l'acier pas cher ou des pneus pas chers tout seuls, nous Français.
Vous dites la naïveté, c'est fini.
Oui, je dis c'est fini, mais je dis aussi parce que je suis par la langage de vérité sur l'Europe. Je suis un Européen convaincu parce que je crois qu'on peut réformer l'Europe. Qu'il y a encore des moments où il y a des défaillances. Dans l'affaire Bridgestone, c'est pas le seul problème, mais il y en a eu. Il y en a eu parce que parfois il y a des fonds européens qui ont été donnés à des usines Bridgestone d'ailleurs dans d'autres pays européens. Ça pose la question du dumping à l'intérieur de l'Europe. Là aussi, nous avons porté le combat sur le détachement. Nous avons obtenu cette réforme. C'était difficile. C'est un des outils pour éviter le dumping à l'avenir. Après, il faut être honnête aussi. Ça ne sera pas seulement dans les barrières, les tarifs, les taxes anti-dumping que nous aurons un projet industriel pour la France. Il faut parler des usines qui ferment. Et j'y reviendrai parce que le combat n'est pas fini. et on peut trouver des repreneurs. Hein. Il ne faut pas dire que les choses sont finies. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie,
qui a annoncé elle-même la fermeture.
Attendez, on se bat pour des solutions pour les individus, pour les personnes, les salariés de Bridgestone, pour qu'on trouve une solution et des débouchés pour eux, plus encore que pour une usine à tel ou tel endroit. Et puis surtout, on n'a jamais recréé autant, avant la crise, d'emplois industriels en France depuis 10 ans. Donc il ne faut pas seulement se dire qu'il n'y aura plus jamais, ce serait un mensonge, de fermeture d'usine ou de suppression d'emplois. Et puis parfois, il y a un effet de la crise. C'est une réalité économique, malheureusement. Mais on doit recréer de l'emploi industriel. Sur le dumping, sur la Chine, on doit être beaucoup plus dur. Aujourd'hui, on met 7 à 9 mois pour prendre des mesures anti-dumping dans un secteur comme les pneumatiques. Les Américains mettent 2 mois. On a déjà beaucoup réduit les délais. Je pense qu'on peut aller plus loin. Mais je veux dire aux gens qui nous écoutent, je veux dire aux Français, ne croyez pas que la solution, c'est dans le repli national. La solution, c'est dans une Europe qui marche mieux. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est parfois compliqué, que c'est trop lent, mais on y arrive. On l'a vu sur le vaccin, c'était pas évident. On va avoir une solution européenne et on le voit dans des domaines industriels. Je prends un exemple, pardon. L'avenir de l'industrie automobile, c'est la batterie électrique. On parle des pneus, mais il y a un autre élément, c'est la batterie électrique. Avec un financement européen, on a ouvert une usine, c'est plusieurs centaines d'emplois, en Charente, avec Bruno Le Maire, il y a quelques mois, franco-allemande, qui va financer les batteries électriques pour qu'on ne revive pas ce qu'on a vécu sur l'acier ou sur les pneumatiques à l'avenir.
Ce sont, vous parlez de réalité, ce sont aussi des familles, ce sont des ouvriers qui ont donné leur vie souvent à cette usine qui se retrouve aujourd'hui sur le carreau. Ça ne vous vient pas à l'idée d'aller les voir? En plus, vous qui êtes issu aussi de la gauche, il n'y a pas que de la politique et des grands concepts et des grands sommets où vous pouvez arranger les choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, au fond, une solidarité à manifester de manière un peu plus, je dirais, empathique?
Vous avez raison, mais je crois que la considération, ça passe d'abord par l'action. Je peux et j'irai à différents anciens différents sites industriels, peut-être à Bridgestone. Moi, je ne veux pas faire des opérations de com. Agnès Pannier-Runacher, qui est en charge du dossier, qui est la ministre de l'Industrie, qui a aussi une action européenne, on en parle ensemble, est allée plusieurs fois. Donc, s'il le faut, j'irai. Je serai d'ailleurs dans les Hauts-de-France dans quelques jours sur le sujet du Brexit et pour être aux côtés de nos pêcheurs. Donc, bien sûr que cette présence sur le terrain est indispensable. Mais je crois qu'il faut dire ce qui ne va pas, le réformer, et je crois que ça passe par l'Europe.
Dans l'action, vous dites, Clément Beaune, trois députés européens de trois groupes parlementaires indifférents, dont Stéphane Séjourné, l'eurodéputé français de la majorité présidentielle, appellent à un nouveau plan de sauvetage européen, à doubler celui qui est actuellement en vigueur. C'est ça aussi l'action?
Oui, je crois. Alors, le plan de relance européen, d'abord, il a été, je crois que ça n'a pas été assez relevé, accepté cette semaine. Donc il y a un accord final entre le Parlement européen, les États européens, pour avoir un plan de 700...
Mais il est déjà obsolète, en fait. Il faut
Attendez. 750 milliards d'euros. J'y insiste, parce que vous parliez d'action. C'est aussi de l'argent qui ira pour plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'industrie européenne. C'est la première fois qu'on a un plan
Combien
de cette ampleur.
Combien on en récupère?
On en récupérera en France un peu plus de 40 milliards d'euros. C'est très significatif et ça financera, je le rappelle, 40% notre plan de relance. Dans le plan de relance, il y a de l'action industrielle pour revitaliser des sites, pour la transition écologique, etc. Tout ça, à chaque projet, vous aurez...
Mais est-ce qu'on monte en puissance?
Alors, vous aurez 40% qui sera financé par l'Europe. Il faut, je pense, monter en puissance, mais d'abord, mettons en œuvre ce plan très vite. Parce que, vous savez, pour l'instant, c'est abstrait. Donc, la première étape, c'est que ces 750 milliards d'euros, ils aillent sur le terrain. Ils aillent précisément
dans des... À propos de terrain, il y a des maires des quartiers difficiles qui disent qu'il nous faut 1% du plan de relance français. Donc, 1 milliard d'euros. Et Emmanuel Macron dit au gouvernement, regardez cette proposition.
J'y viens tout de suite, mais je veux quand même répondre sur l'augmentation du plan de relance européen. Donc, d'abord, allons vite sur les 750 milliards d'euros. Ils doivent être là, sur la table et dans les régions, dans les territoires, dès le début de l'année 2021. Je veux dire aussi que s'il faut l'augmenter, nous ouvrirons ce débat. Et nous sommes prêts à l'ouvrir avec le gouvernement, avec le président de la République, au niveau européen. Une solution pour être pragmatique et efficace, c'est probablement que ce plan de relance, on accélère son déploiement, et qu'on lui permette de financer, avec cet argent européen, les mesures d'urgence. Parce que la relance, c'est la phase qui sera celle de reconstruction de nos économies, investir pour l'avenir.
Ah, en fait, vous dites qu'on revient à la période de départ, au moment premier confinement, c'était l'urgence qui prévalait par rapport à la relance de l'économie.
Mais M. Darmon, nous y sommes encore dans l'urgence. Quand Bruno Le Maire dit que nous augmentons le fonds de solidarité...
À la rentrée, on était dans la relance.
Mais vous aurez noté que c'était l'opposition qui disait au gouvernement, vous décalez le plan de relance d'une semaine, vous êtes complètement irresponsable parce qu'il faut passer à la phase de relance. On est encore dans une phase d'urgence. Ça n'empêche pas, gouverner, c'est anticiper, de prévoir la relance, c'est-à-dire l'investissement dans l'avenir, pour le jour d'après. Et ça commencera dès début 2021. Donc on fait les deux à la fois. le chômage partiel, le report de charges, le report de loyers ou l'effacement des loyers. Ça, c'est le paquet d'urgence. Aujourd'hui, je rappelle qu'il fait plus de 500 milliards d'euros. Et puis, il y a la relance qui sera l'investissement pour demain, pour que notre économie soit plus forte après la crise.
Sur
les quartiers, je pense que d'ores et déjà, si on faisait le compte entre la partie l'aide aux jeunes, le soutien au chômage partiel, etc., on serait sans doute à plus d'1% de nos actions d'urgence et de relance pour les quartiers. Mais s'il faut une action, nous, le président a donné cette consigne au gouvernement, nous regarderons si on peut cibler une partie, effectivement, dans les
et
quartiers
difficiles.
Et vous
dites qu'il faut plus d'argent européen pour la relance. Est-ce qu'il faut aussi plus d'argent français? Est-ce qu'il faut aussi doubler, parce que c'est 60 milliards d'euros, la partie française?
Alors attendez, pour l'instant, je crois que l'urgence, et c'est ça qu'on l'augmente, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, notamment pour les commerçants, pour des secteurs très sinistrés comme l'hôtellerie-restauration. C'est l'augmentation du fonds de solidarité, c'est la poursuite du chômage partiel. On l'a dit, Olivier Dussopt et Bruno Le Maire l'ont dit, c'est environ 15 milliards d'euros par mois de confinement.
Mais ce
ça, c'est en plus du plan de relance, c'est en plus des 100 milliards.
Il est déjà obsolète, le plan de relance.
Non, je ne crois pas qu'il soit obsolète, je crois que c'est une autre phase.
Il paraît tellement loin des Français, le plan de relance.
Justement, c'est pour ça.
C'est un appel à projet. Qu'est-ce qu'il y a de direct pour eux? Il y a des précarités, des ménages qui ont besoin de trésorerie.
C'est exactement pour ça que je vous dis, on fait à la fois l'urgence et la préparation de la relance. Et notre responsabilité, c'est de tenir les deux ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus que 100 milliards d'euros. Le chômage partiel, le fonds de solidarité, les reports de loyers, tout ça, c'est en plus des 100 milliards du plan de relance, et c'est dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. On a encore une loi de finances qui a ajouté 20 milliards d'euros, et ce qu'a annoncé notamment le ministre de l'économie pour effacer les loyers du mois de novembre, c'est très concret. C'est très concret. Et c'est aujourd'hui, et c'est en plus du plan de relance. Mais je crois qu'on ferait une erreur, et d'ailleurs, vous nous le reprocheriez, je ne doute pas que beaucoup de responsables politiques nous le reprocheraient, si on disait, on oublie le plan de relance, on oublie les 100 milliards d'euros, qui, eux, sont de l'investissement pour que notre économie soit plus forte après la crise.
On n'oublie pas, mais c'est décalé, effectivement. Damien Fleurot.
Oui, très rapidement, vous parliez du chômage partiel. Les commerçants y ont droit. Certains grands groupes aussi en bénéficient, comme Carrefour dans la grande distribution, 90 000 salariés en chômage partiel. Cela choque certains, vous aussi?
Mais cela choque pourquoi? Cela choque parce qu'on considère que la grande distribution ne serait pas en difficulté et n'aurait pas droit
ou à la surface partiel. Peut-être financière pour pas mettre en chômage partiel certains de ses salariés.
Moi, je veux bien, et on peut regarder tous les paramètres du dispositif, Bruno Le Maire le fait régulièrement, mais soit on fait des choses simples, rapides, efficaces. Vous nous invitiez à juste titre à être dans l'urgence et dans la réaction parce qu'il y a des entreprises qui sont en survie, y compris de grandes entreprises qui sont en difficulté. On a vu dans beaucoup de secteurs, l'aéronautique, l'automobile. Et vous voulez un dispositif qui soit extrêmement compliqué, on différencie par secteur, par seuil, etc. Moi, je crois qu'il faut aller vite, il faut aller fort. Il doit y avoir ensuite des engagements pris par les différents secteurs. On en discutera dans le cadre du plan de relance, justement, comme vous le savez. Mais je crois qu'on ferait une erreur à être dans une espèce de dispositif trop compliqué, trop différencié, qui perdrait de l'efficacité. Et à la fin, ce n'est pas les entreprises qui bénéficient du chômage partiel, ce sont les salariés qui sont protégés. Dans tous les secteurs, ils ont le droit.
L'Europe est une passoire, on se retrouve avec Clément Beaune pour en parler.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et avec Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes. À l'issue d'une réunion avec d'autres dirigeants européens en début de semaine à l'Élysée, le président de la République a dénoncé les dérives de la politique migratoire en Europe. On écoute, on regarde.
Nous assistons dans tous nos pays à un dévoiement de ce qu'est le droit d'asile. Donc notre volonté, c'est de mieux construire notre réponse commune concertée, de mieux protéger nos frontières communes, de mieux faire face à ces phénomènes contemporains pour mieux garder nos frontières ouvertes entre nous.
Est-ce qu'il y a un problème de confiance avec les partenaires? Notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry, le rappelait tout à l'heure. Plus d'une personne sur cinq n'est pas contrôlée sérieusement à son entrée dans l'espace commun, selon une étude de l'agence Frontex. Ça va changer?
Ça a déjà changé, il faut que ça change, il faut qu'on renforce le contrôle de nos frontières extérieures. Là aussi, d'ailleurs, chacun le voit, il n'y a pas de solution au sujet de sécurité de frontières à la question migratoire sans action européenne. Est-ce qu'on est au bon niveau d'action? Non, pas encore. Mais on a un acquis qu'il faut préserver, le président de la République l'évoquait, c'est qu'en Europe, on circule librement au sein de ce qu'on appelle l'espace Schengen. C'est très précieux et j'insiste là-dessus, ça n'est pas quelque chose qu'il faut jeter aux orties. Et ça n'est pas un luxe ou une lubie de personnes qui seraient contre les frontières par principe. Pas du tout. Il ne faut aucune naïveté. C'est très important. Je prends juste l'exemple de la France. On a 350 000 personnes qui gagnent leur vie en passant une frontière européenne. Parfois, ils s'en rendent même plus compte, tellement c'est simple, chaque jour, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, etc. Et puis, nos marchandises, nos médicaments, circulent en Europe. Bon. En revanche, il faut qu'on soit plus ferme et plus strict sur le contrôle de nos frontières extérieures. Je ne veux pas laisser croire qu'on ne contrôle pas nos frontières extérieures aujourd'hui. Est-ce qu'il y a
encore... C'est faible, on le voit, hein. Regardez, l'étude montre bien.
On ne le sait pas exactement, mais oui, on doit renforcer, oui, on doit améliorer. Et surtout, c'est comme pour la monnaie, c'est une question de confiance. Aujourd'hui, quand vous êtes un pays membre de la zone euro, vous avez des règles pour vérifier quels sont vos déficits, quelles sont vos dépenses publiques, etc. On n'a pas ça en matière de sécurité. Il faut, je pense, une forme de pacte de sécurité où on vérifie régulièrement ce que chaque pays fait pour contrôler les frontières extérieures.
Alors, il y a effectivement les grands et les bons principes, et puis il y a les enjeux très importants, très concrets. Cécile Cornudet.
Oui, Emmanuel Macron a fait pour la première fois un lien entre terrorisme et immigration, avec des précautions, mais il l'a fait quand même, et ça, c'est un tournant sémantique. Vous venez de la gauche, vous faites partie de ceux que ça a un peu étonné. Il fallait le faire, il fallait aller aussi loin?
Non, ça ne m'a pas choqué. Et oui, je viens de la gauche, on y reviendra peut-être. Je considère sûrement justement que... l'acquis européen de libre circulation nécessite, pour ça que je commençais par cela, qu'on soit très ferme à nos frontières extérieures. Moi, je ne crois pas du tout à une espèce d'espace mondialisé dans lequel il n'y aurait pas de contrôle, pas de frontières. Simplement, je pense que le bon niveau pour nos frontières, pour nos décisions en matière migratoire, c'est l'Europe, c'est l'espace Schengen.
Mais où sont les points de passage les plus sensibles? On voit que le terroriste de Nice était passé par l'Italie. Il y a beaucoup d'Algériens qui passent en ce moment par l'Espagne. C'est quoi les points de fragilité?
C'est notamment les pays qui sont soumis à ce qu'on appelle les premières entrées, c'est-à-dire qui sont les pays d'arrivée migratoire par leur géographie.
Il faut faire pression sur ces pays pour qu'ils soient plus efficaces.
Oui, exactement. Je crois qu'il faut faire pression, mais avec de la solidarité. Ce n'est pas de la faute de l'Italie si, par sa géographie, elle se situe plus proche des côtes africaines, de l'Afrique du Nord et donc des flux migratoires. Ce n'est pas de la faute de l'Espagne si, aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants qui viennent d'Algérie et du Maroc. Donc, on doit les aider par des actions européennes. Ça s'appelle Frontex. C'est une agence de protection des frontières. Il y a aujourd'hui seulement 1500 personnes. C'est très faible. On doit passer à 10 000. Ça, c'est une réponse très concrète.
Absolument.
Non. Aujourd'hui, on a le budget pour le faire. On l'a décidé. Ce qu'a dit le président de la République cette semaine, c'est qu'on doit accélérer. Je peux vous dire que quand il y a eu une pression organisée par la Turquie au mois de février à la frontière grecque, ils ont essayé de manière délibérée de faire passer des migrants en Grèce pour faire pression sur l'Union européenne et sans doute obtenir de l'argent. Nous avons tenu la frontière grecque, je crois qu'on a eu raison, et nous l'avons fait avec des moyens européens et notamment français. Alors, c'est très important. Pardon, sur asile et immigration, parce que c'est aussi très important. Immigration et terrorisme. Il n'y a pas d'amalgame. Ce serait une folie et une faute. Ce serait tout simplement une erreur factuelle de dire que c'est l'immigration qui entraîne le terrorisme. Je rappelle que sur 30 crimes terroristes qui ont été commis...
Le terrorisme peut profiter du flux migratoire.
Bien sûr, sur 30 attentats terroristes qui ont lieu ces dernières années en France, 22 ont été commis par des gens qui sont nés en France, qui résidaient en France. Donc, on peut se voiler la face et dire plus d'immigration, plus de terrorisme, c'est un mensonge. Et nous ne tomberons jamais dans cet amalgame. En revanche, il est clair que les frontières, c'est un moyen de contrôler des réseaux, des passeurs, des trafics qui instrumentalisent la misère humaine et la pauvreté et les difficultés des migrants. Et oui, il est évident que dans ces réseaux et ces trafics, il peut y avoir une confusion et que peuvent se glisser des personnes qui sont une menace pour notre sécurité. Je ne dis jamais, un migrant égale un terroriste. Le président de la République ne le dira jamais. En revanche, protéger nos frontières, c'est un moyen de faire nos choix en matière d'immigration et en même temps de lutter contre des trafics divers et variés, stupéfiants, armes,
comme
et aussi
dit,
le terrorisme.
Comme l'a dit Cécile Cornudet, Clément Beaune, même s'il a dit avec précaution, le message politique a été envoyé. Dans le même temps, les spécialistes du terrorisme au niveau de l'Union européenne...
Mais un message de laxisme serait destructeur pour l'Europe, donc moi je n'ai aucun problème avec cela.
Il y a également des analyses de la part des spécialistes du terrorisme au niveau de l'Union européenne qui disent qu'en réalité la menace elle est à l'intérieur de l'espace Schengen, que ce sont des radicalisés européens qui sont les plus dangereux. Comment vous faites la part des choses? Et au fond, est-ce qu'il n'était pas question que le message soit essentiellement politique de la part d'Emmanuel Macron?
Tout message est politique, donc je pense que le président de la République n'a aucun problème à l'assumer, mais son message est lequel? Solution européenne, même sur les sujets qui apparaissent comme très nationaux, régaliens, comme la lutte contre le terrorisme, il faut une dimension européenne. Le président est fidèle à son ADN, au discours qu'il a toujours tenu depuis la campagne présidentielle, où il a dit que dans toutes les grandes crises, il y avait une réponse européenne aussi. On le fait. On aurait pu avoir un discours très différent, c'est celui de l'extrême droite qui consiste à dire « fermons tout, ça n'est pas notre discours ». Ensuite, évidemment, si on se contente d'avoir un discours sur les frontières extérieures, on n'est pas efficace sur la menace terroriste. Elle est aussi chez nous, elle est d'abord chez nous. Elle est par l'éducation, elle est par la lutte contre le séparatisme qu'on a trop laissé s'installer. Et le gouvernement a été d'ailleurs très clair là-dessus. On n'a pas découvert la lutte contre le terrorisme avec la question de Schengen. Mais c'est un des instruments. C'est un des instruments qu'il faut assumer. Et ensuite, on l'a vu avec les attentats de Vienne, etc. Il faut qu'on lutte à l'intérieur contre un ennemi qui essaye de tuer notre liberté, nos valeurs, de tuer tout court. Et ce combat contre la radicalisation, évidemment, se mène aussi chez nous.
Du coup, il y a eu une action de Gérald Darmanin pour favoriser l'expulsion des étrangers radicalisés. Il a fait un tour des pays du Maghreb. Ça ne paraît pas très probant. Est-ce qu'on ne peut pas augmenter le rapport de force, avoir d'autres armes, entre guillemets, pour permettre ces expulsions?
Quel était le résultat de cette tournée?
Vous avez raison. Un des sujets, c'est que... pour l'expliquer à chacun, parce que tout le monde dit qu'il faut reconduire les personnes en situation régulière et a fortiori reconduire les personnes qui sont une menace pour notre sécurité. Aujourd'hui, le principal obstacle à ces reconduites, à ces expulsions, c'est que les pays d'origine ou de transit refusent. Et donc il faut bien reconduire une personne quelque part. Et donc je crois, là aussi, qu'il faut sortir la naïveté. Là aussi, il faut passer par une action européenne, parce que nous sommes plus forts dans ces pressions. Il faut dire à ces pays qu'ils doivent reprendre des personnes qui sont identifiées comme leurs ressortissants. Et Gérald Darmanin l'a évoqué, nous avons des leviers pour le faire.
Mais quoi ?
Par exemple, les visas.
Vous seriez prêt à limiter le nombre de visas, par exemple, avec certains pays du bassin méditerranéen?
Par exemple, pour des personnes en ciblant, des personnes, des responsables politiques, des responsables économiques, oui, c'est un des leviers que le président de la République, que le ministre de l'Intérieur
envisage. C'est ce qui a été exposé par le ministre de l'Intérieur durant sa
récente
tournée.
Je n'étais pas à ses rendez-vous, mais je pense que ça fait partie des pistes qu'il a évoquées, parce qu'à un moment, il faut être concret et efficace. Et donc, nous n'avons là non plus pas de naïveté, on respecte nos partenaires, mais... en européen, avec nos partenaires européens, on doit mettre cette pression.
Alors, à propos également, donc, pression et levier, au Conseil européen de décembre, des sanctions sont envisagées contre la Turquie. Comment sanctionner la Turquie?
Alors, il y a déjà quelques sanctions qui existent. Ce sont des sanctions qu'on appelle individuelles, c'est-à-dire on dit à un individu, un responsable politique, par exemple.
Elles ne sont pas efficaces.
Non, c'est pas très efficace. En général, d'ailleurs, c'est un outil symbolique. Mais on doit aller plus loin. Et donc, pour le Conseil européen du mois de décembre, nous regardons toutes les options. Nous avions donné une chance au dernier sommet européen en octobre à la Turquie, qui avait donné de petits signaux d'apaisement, retirant un bateau des eaux grecques ou chypriotes. Maintenant, elle a choisi la voie, encore une fois, de la provocation et de l'agressivité systématique.
Verbale. Alors, quelles sanctions ?
Ça peut être d'autres sanctions individuelles. Nous regardons encore une fois toutes les options. Ça peut être des sanctions qu'on appelle sectorielles, c'est-à-dire sur les sections économiques, sur tel ou tel secteur. C'est encore trop tôt pour prendre une décision, parce que là aussi, on le fera avec tous nos partenaires européens. Mais la France, je crois, a changé la position européenne sur la Turquie. Et je prends un exemple, ce n'est pas seulement des sanctions directes. Cet été, quand il y a eu une action de la Turquie en Méditerranée orientale, avec des bateaux de guerre parfois, nous avons envoyé notre marine pour montrer notre présence et bloquer les Turcs. Bon, s'il faut faire ce genre de mesures, nous le referons. Donc c'est une boîte à outils, un panel de mesures sur lesquelles il ne faut exclure aucune option, alors, dont les sanctions
Clément
économiques.
Beaune, oui, malgré vos déclarations, vos envies comme ça de rassurer, on sent quand même que la France est quand même un peu isolée vis-à-vis de la Turquie. Les autres partenaires européens sont beaucoup plus prudents. L'Allemagne a ses enjeux, le gouvernement maltais également a ses enjeux vis-à-vis de la Turquie. Au fond, est-ce que la France n'est pas seule face à la Turquie ?
Non. D'abord, la France n'est pas seule face à la Turquie. Et on a fait changer le consensus européen sur ce sujet. Vous avez raison, pendant 10 ou 15 ans, on a pensé que la Turquie, c'était une sympathique démocratie chrétienne à l'orientale, avec une modernisation qui se ferait progressivement. Ça n'est pas cela. C'est un islamisme agressif, culturellement, géopolitiquement, dans tous les domaines. On l'a vu encore dans le Haut-Karabakh ces derniers jours. Et donc, il faut avoir aucune naïveté. C'est la France qui a porté ce discours en premier. Nous avons, par exemple, soutenu la Grèce très concrètement face aux pressions turques en février. Et maintenant, même en Allemagne, ce regard a changé. Je crois que c'était un préalable nécessaire à l'action. Et aujourd'hui, aucun pays européen, je crois, n'a plus d'illusions sur ce qu'est M. Erdogan et son régime. Et maintenant, nous allons passer aux actions. Nous avons commencé. J'évoquais cet été notre présence en Méditerranée orientale. Ça n'est pas rien. Nous avons, dès l'année dernière, mis quelques sanctions sur des responsables turcs qui faisaient des forages dans la Méditerranée orientale, et nous irons plus loin.
Le rapport à l'union douanière, il y a une intégration, il y a une modernisation qui est en train de se négocier.
Il n'y a pas une mesure magique, mais toutes les options sont sur la table. Vous évoquez l'union douanière, je ne crois pas que ce soit la plus efficace, mais je l'évoquais, c'est quand même très fort, de possibles sanctions dans certains secteurs économiques. C'est une possibilité, nous devrons en discuter. Mais avec nos partenaires européens, je crois que le regard a complètement changé et que les Européens sont enfin prêts à l'action.
On se retrouve avec Clément Beaune dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Clément Beaune pour sa dernière partie du grand rendez-vous. 2022 se prépare. Emmanuel Macron peut-il être au rempart deux fois, Cécile Cornudet?
Oui, on l'a évoqué, vous vous définissez comme un macroniste de gauche. Or, cette semaine, à l'Assemblée, il y a une proposition de loi sur la sécurité globale qui suscite pas mal de remous dans l'aile gauche de la majorité. Gérald Darmanin veut empêcher la diffusion des images, des visages des policiers pour les protéger, dit-il. Vous en pensez quoi, vous?
La seule chose que je n'aime pas dans cette loi, c'est le terme, parce que je trouve que sécurité globale, ça donne une impression de contrôle.
Bon. Vous ne répondez pas directement. La diffusion de ces images, c'est important.
Je crois que c'est important, parce que parfois, c'est une incitation directe à la violence. Il ne s'agit pas d'interdire une expression publique, une expression même critique, ou de dénoncer tel ou tel acte de force de l'ordre ou de policier. Il s'agit parfois de révéler une adresse. D'inciter à la haine.
C'est pas une limitation des libertés d'aller jusqu'à la diffusion.
Je crois que l'équilibre qui a été trouvé dans cette loi, non. Et j'ajoute aussi, et c'est très important, ça fait partie de cet équilibre, j'allais dire dans les deux sens, c'est qu'il y aura aussi des caméras piétons, des caméras qui filmeront pour les forces de l'ordre les interventions. Et ça, je crois que c'est très important parce que je ne mets jamais sur dans les mêmes termes ou sur un pied d'égalité ce qu'on appelle dans une grande confusion des valeurs et des mots. Les violences policières. Je ne crois pas à cela parce qu'il y a pour l'État un monopole de la violence légitime. Et ce mot légitime est essentiel. Néanmoins, quand il y a des dérapages, quand il y a des comportements qui ne sont pas conformes à la déontologie, pas conformes à la loi, on doit être beaucoup plus dur. Et un des outils pour le faire, c'est de filmer les interventions. Et donc ça, je crois que c'est une avancée importante.
Mais pourtant, vous dites que vous n'aimez pas le terme de cette loi et qui peut accentuer la méfiance qui peut exister entre les Français et les policiers en ce moment?
Non, je ne crois pas. Ce que je veux simplement dire, il ne faut pas surinterpréter ou s'y attarder trop. Je trouve le terme n'est pas clair et il n'est pas le plus heureux, point barre. Sur le fond, je crois que cette loi, il faut rappeler ce qu'elle est, parce qu'elle a été beaucoup caricaturée, c'est éviter une incitation à la haine contre nos forces de l'ordre, dont on voit à chaque instant, y compris dans la crise sanitaire, à quel point elles nous protègent de manière républicaine, et vérifier que tout cela se fait dans le cadre de la loi et de la déontologie. C'est l'engagement constant du gouvernement et du président.
Officiellement, les réformes de la retraite, assurance chômage, indépendance sont toujours sur la table, mais au fond, pourquoi ne pas dire que la crise sanitaire a tout gelé, tout simplement?
Je pense que ce serait une grave erreur. Parce que je le disais tout à l'heure, gouverner, c'est anticiper. Et ce n'est jamais... J'aime beaucoup cette phrase de Pierre Mendès-France qui disait que gouverner, c'est ne jamais sacrifier demain à aujourd'hui. L'avenir au présent. Et le jour où, parce que ça viendra, nous sortirons de cette crise sanitaire, probablement progressivement, dira-t-on aux Français, ah, nous sommes désolés, nous ne sommes occupés que de la santé, même si c'était très important. Et puis, l'avenir de la France, on parlait du plan de relance en matière économique, l'assurance chômage, les retraites, ça ne nous a pas intéressés, on n'a pas eu le temps, pardon,
non,
on repassera.
Légitimement, les conditions ne sont plus les mêmes, économiques, sociales et financières. Donc, on peut reposer la réforme des retraites sur d'autres bases, peut-être.
C'est ce que nous faisons sur un certain nombre de paramètres, chaque chose en son temps. Cette semaine même, c'est le cas pour l'assurance chômage. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, mène une concertation pour précisément revoir un certain nombre de paramètres sans en abandonner le principe de la réforme de l'assurance chômage. Donc oui, bien sûr, on doit tenir compte du contexte, on doit tenir compte de la situation économique et budgétaire qui ne sera plus du tout la même après la crise pour revoir nos règles, françaises, européennes d'ailleurs, et ça vaudra très probablement pour les retraites.
Il y aura une réforme des retraites avant 2022.
Écoutez, c'est pas à moi d'en décider. Je souhaite qu'il y ait une réforme des retraites parce qu'elle avait un aspect essentiel que Emmanuel Macron avait défendu dans la campagne présidentielle, qui était la simplification, l'unification du régime. C'était une réforme d'équité. Et cet aspect-là notamment, je crois qu'il doit être poursuivi. Il est d'autant plus nécessaire après la crise.
Vous vous référez effectivement à l'origine de cette réforme qui avait quand même beaucoup évolué en chemin, notamment avec tout le débat sur l'âge pivot, qui avait été un petit peu quand même plus droitisé, en fait. Quand on parle avec des membres de l'entourage d'Emmanuel Macron, ils disent, en fait, c'est très clair, la campagne présidentielle se fera sous le haut patronage du Covid-19. Est-ce qu'il est possible d'avoir ce projet, vous vous dites, de réforme, de continuer à transformer le pays, alors qu'il faut, en fait, le préserver?
Écoutez, je crois dire aux Français, nous sommes déjà projeté dans une échéance électorale et on s'occupe du Covid.
Ah, non, ne servez pas cet argument. Tout le monde au gouvernement, au stade où on est du quinquennat, on sait très bien qu'on réfléchit à la fin du mandat qui arrive à toute vitesse.
On réfléchit à la fin du mandat aussi en termes d'action.
On réfléchissait à la campagne présidentielle.
D'accord, mais bien sûr, c'est important. Mais ce n'est pas ce sur quoi le président a été élu. Il a été élu pour un certain nombre de réformes, et y compris d'ailleurs en vue des échéances électorales, il faut faire des réformes. Donc moi, je crois que le discours qui consisterait à dire Covid et rien d'autre est une erreur. Et ce n'est pas celui que tient le gouvernement, que tient le Premier ministre. Parce qu'encore une fois, quand on gouverne, on doit s'occuper, même quand les crises sont nombreuses, du présent et de l'avenir et des différentes crises. On ne choisit pas ces crises.
Mais regardez, l'enseignement des élections américaines montre bien, au niveau français aussi, ça a été observé, que le comportement électoral des électeurs vis-à-vis de la gestion de la pandémie est aussi crucial.
Mais bien sûr, je n'ai pas du tout minimisé l'importance de cette crise. Elle est dans la tête chaque jour et dans la vie de chacun des Français, parfois douloureusement. Bon, donc je ne dis pas, et vous le voyez, à quel point on en parle et à quel point on est actif sur ce sujet. Simplement, je dis à la fois sur la réponse économique, sur la suite des réformes, sur la transition écologique, on ne va pas considérer qu'il n'y a plus rien d'autre pour l'éternité. Ce serait, je crois, une erreur, et tout ça se prépare. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, après la première étape de la crise, la première phase de la pandémie, on nous a dit en août et début septembre, que n'avez-vous pas préparé le plan de relance plus tôt, vous n'êtes pas organisé, vous êtes des amateurs, etc. Et donc je crois que c'est précisément la volonté, la responsabilité du gouvernement de revoir un certain nombre de paramètres, mais de continuer dans différents domaines un certain nombre de réformes. Ça vaut d'ailleurs aussi pour l'Europe, on a évoqué beaucoup de sujets.
À l'instant, Damien Fleurot.
Oui, Clément Beaune, on se souvient de la promesse présidentielle d'Emmanuel Macron, réconcilier les Français avec l'Europe. On en est loin aujourd'hui, notamment à cause de la crise sanitaire. Il y a cette présidence française qui s'approche au premier semestre 2022. Est-ce que ça va être pour vous l'occasion de recréer du clivage entre les populistes et les progressistes?
Ce clivage existe.
Un clivage qui a profité à Emmanuel Macron.
Mais ce clivage est une réalité. Je reviens sur votre prémisse qui est de dire que les Français ne sont pas réconciliés avec l'Europe. Les Français, ils sont exigeants avec l'Europe. D'ailleurs, on le voit à chaque crise, par votre intermédiaire parfois, on nous dit pourquoi l'Europe ne fait pas plus. Moi, je vois ça finalement comme positif, parce que ça veut dire qu'il y a une attente à l'égard de l'Europe, il y a un espoir à l'égard de l'Europe. Il est parfois déçu, il est parfois insuffisant, mais on se bat pour le faire.
Il y a des signes ça s'est amélioré.
Moi, je pense que ça s'est beaucoup amélioré. L'adhésion à l'Union européenne, partout, depuis le Brexit, ce qui est d'ailleurs un signal, s'est améliorée, en France comme ailleurs. Et après le plan de relance, on a vu partout, ce sont les frémissements, qu'il y avait un soutien et une adhésion supplémentaire à l'Europe.
Vous venez d'évoquer, excusez-moi, le Brexit à l'instant, c'est un échec de l'Europe. C'est l'Europe qui se disloque. D'ailleurs, qu'est-ce que ça va changer
On sait aujourd'hui que plus de 80% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont pour rester dans l'Union européenne. Et deux tiers des électeurs de Marine Le Pen, beaucoup plus qu'il y a 5 ans, sont pour rester dans l'Union européenne. Tout ça, ça compte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que leur discours est aussi inconstant et souvent incohérent, parce qu'ils sont mal à l'aise avec le sujet européen. Nous sommes à l'aise et il y a un clivage là-dessus. Le Brexit, il a révélé un malaise européen, qui n'est pas seulement britannique. Tout ce qu'on évoquait, est-ce que l'Europe nous protège assez face à la mondialisation commerciale, au dumping, à la Chine, aux migrations, à la sécurité? Et c'est d'ailleurs un paradoxe que le pays qui a défendu une forme d'ultralibéralisme européen pendant tant de décennies est le premier qui se soit pris le bâton en retour. Et donc, Emmanuel Macron a toujours été clair, dès sa campagne présidentielle, tout notre programme européen vise à tirer les leçons du Brexit.
Alors, il a été aussi clair sur notre sujet, quand il se confie et son entourage depuis le début du mandat. À la fin, il n'y aura que Marine Le Pen et nous. Voilà ce qu'on entend aussi du côté des macronistes. Est-ce que c'est la seule... Au fond, le seul objectif, c'est recréer le match de 2017.
Non, moi je ne...
Que les Français ne veulent pas.
Citer des propos qui, à mon avis, ne sont pas publics. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit l'objectif. Avoir dans notre pays, au deuxième tour d'une élection présidentielle, comme c'est arrivé déjà deux fois en 20 ans, l'extrême droite, père ou fille, c'est la même chose. Bon. Une extrême droite qui vient du racisme, de l'antisémitisme, de la haine, c'est un drame démocratique. Donc, personne ne fait ce jeu. Et d'ailleurs... Puisque vous l'évoquez, en 2017, Emmanuel Macron n'a pas été celui qui a créé le clivage avec l'extrême droite. Il est celui qui l'a assumé et qui a démonté, point par point, notamment sur l'Europe et sur l'euro, le programme de l'extrême droite.
Est-ce que vous pensez que ce sera encore le match de 2022 ?
Je ne sais pas. Et moi, je rêverais qu'il y ait dans notre pays un deuxième tour d'élection présidentielle sans l'extrême droite. Ce n'est pas à moi d'en décider, c'est aux électeurs. Et je crois qu'il faut faire chaque jour reculer l'extrême droite, notamment par le sujet européen. Mais l'idée qu'on a eue pendant 30 ans en France... qu'on luttait contre l'extrême droite par des arrangements d'appareil, en niant le sujet, en niant le débat sur l'Europe, c'était typique. Il n'y avait que Marine Le Pen qui parlait d'Europe, ou que son père, ou que M. Mélenchon, qui souvent rejoint malheureusement son discours. Aujourd'hui, nous en parlons, nous avons, je crois, un bilan, nous continuerons, et ça fait partie du clivage d'aujourd'hui, entre ceux qui veulent une ouverture qui protège, et je crois que l'Europe est notre bouclier dans la mondialisation, et ceux qui veulent une fermeture nationale qui nous détruirait. Moi, je crois que ce clivage existe encore.
Cécile Cornudet.
Oui, depuis la nomination du gouvernement Castex en juillet, Emmanuel Macron s'est clairement positionné au centre droit. On le voit depuis avec toutes les mesures sur le régalien, l'immigration, on en parlait, la sécurité, le terrorisme. Est-ce qu'il faut acter ce bouger? Est-ce qu'il y a, on a dépassé le en même temps? Est-ce que vous êtes de centre droit?
Moi non, je crois que le président non plus, mais...
Sa politique?
Non, je crois qu'il y a...
Pour Christian Estrosi, c'est le meilleur candidat de la droite.
Écoutez, moi je ne partage pas cette analyse.
Et d'autres?
Regardez ce qui a été fait sur l'école, ce qui est fait encore sur les minima sociaux aujourd'hui, sur la revalorisation du travail. Si c'était le programme des Républicains, ça me réjouirait, mais je crois que ce n'est pas le cas. Et donc, d'ailleurs, je crois que cette catégorie, c'est un peu une facilité ou une paresse de dire un président de centre-droit. C'est un président qui est fidèle au programme qu'il a pris. Il vient de la gauche, moi aussi, on est un certain nombre. Je suis à l'aise avec cette idée qu'on fait de la réforme économique, du soutien social et l'ambition européenne aussi. Et je crois que ce logiciel-là, parfois peut-être on ne l'a pas assez bien montré. Moi, quand on formule ce genre de propos, c'est que peut-être on ne dit pas les choses de manière suffisamment précise, on ne fait pas les choses assez bien, donc faisons-le plus clairement. Mais je crois que le logiciel de départ et le contrat qu'Emmanuel Macron a passé avec les Français, nous y sommes fidèles.
Merci, c'était le grand rendez-vous de Clément Beaune. À dimanche.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve après le Flash Info Pascal Clark en balade avec. Bonjour Pascal.
Bonjour, une balade imaginaire ce matin avec Lola Lafont. On va danser, chanter et peut-être pleurer. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.